on parle politique avec Vincent Gosselin.
Nos températures sont plus chaudes, mais évidemment, on ne rejoint pas de ce qui se passe en Égypte. Mais quand même, on se plaindra pas. On va aller rejoindre Vincent Gosselin du côté du Caire. Vincent, bienvenue.
Merci, ça va bien?
Ça va très bien. Content que le contact se fait bien ce matin. Des fois, à la distance, oui, l'Internet, c'est pas infaillible. Mais bon, pour l'instant, ça va très bien. Vincent, grosse semaine chez nos voisins du Sud. Et bon, commençons par ce qui s'est passé hier. Le discours sur l'état de l'Union fait par le président Biden. Comment tu as trouvé son discours au président?
Dans l'ensemble, c'est un bon discours. J'irais même jusqu'à dire que c'est une de ses bonnes performances depuis 4 ans. On a senti un Joe Biden très réactif sur la politique étrangère. On n'y échappe pas dans le contexte actuel. Il a commencé en abordant de front la guerre en Ukraine et il a conclu le discours par la situation à Gaza, la guerre israélo-palestinienne. Alors, dans ce contexte-là, Joe Biden agit comme un président américain et pas comme un président démocrate en politique étrangère, chose qu'on avait perdue avec Donald Trump, qui utilisait la politique étrangère parfois de façon partisane, parfois pour son intérêt personnel. On se souvient de l'appel avec le président Volodymyr Zelensky qui lui demandait d'enquêter sur les affaires du fils de Joe Biden, parce que Joe Biden était à l'époque pressenti comme un potentiel adversaire pour Donald Trump en vue de l'élection 2020. Donc, on était habitué à ça avec Donald Trump. Joe Biden a l'expérience de 36 ans comme sénateur, comme président de la commission sénatoriale sur les affaires étrangères. Et il a évidemment voulu, tout au long du discours et même quand il abordait la politique intérieure, créer le fossé de différence qu'il sépare de Donald Trump. Il a mentionné Donald Trump à plusieurs reprises, sans jamais nommer son nom, évidemment, mais en disant « mon prédécesseur ». C'est comme ça qu'il l'appelle. Puis il ne s'est pas gêné, là, si vous me passez l'expression, pour critiquer Donald Trump. Ah oui, pour critiquer les républicains de façon générale, en pointant du doigt les sénateurs, les représentants républicains qui bloquent certaines de ces mesures. C'est sûr que Joe Biden a une approche très interventionniste en politique économique, en politique sociale. Donc, c'est normal de voir des républicains pour qui le libéralisme économique, qui est au cœur de leur théorie économique, viennent bloquer des mesures du président Biden. Mais c'est que dans un contexte où il y a des plans bipartisans qui sont sur le point d'être adoptés, mais qu'une fraction, on s'en parle depuis longtemps, de ce Freedom Caucus là, à la Chambre, qui bloque à peu près tout, quand des républicains...
Comme tu dis, quand bloquait tout, bloque surtout la loi sur la frontière. Et il y a même un républicain qui est sorti en disant « Écoute, Trump appelle pour qu'on bloque le projet pour qu'il puisse faire une campagne là-dessus. » Fait que dans le fond, il veut pas régler le problème pour que sa campagne puisse être sur ce problème-là.
C'est ça, parce que c'est tellement plus facile de mettre... La faute de la situation à la frontière avec le Mexique, toute l'immigration irrégulière qui crée un problème, certes, dans les États frontaliers, puis le gouverneur Greg Abbott du Texas qui a commencé à déplacer certains de ces demandeurs d'asile dans des États non frontaliers comme New York pour que d'autres politiciens démocrates voient le problème. C'est tellement plus facile en campagne électorale d'utiliser cet enjeu-là. Et c'est vrai que ce plan... bipartisan, il y a eu une entente bipartisane pour que des mesures soient prises pour renforcer la sécurité à la frontière, pour améliorer le traitement des demandes d'asile, pour s'assurer qu'il n'y a plus de blocage, puis surtout qu'on puisse contrôler les traversées à la frontière entre les États-Unis puis le Mexique. C'est rare que les deux parties réussissent à s'entendre sur cet enjeu-là. Oui. Il y a une entente bipartisane entre des républicains et des démocrates, mais la frange plus radicale du Parti républicain bloque. Et hier, le plaidoyer de Joe Biden a été clair, là. Et il a vraiment appelé, là, mot pour mot, les républicains à appuyer ce plan-là pour que ça passe une fois pour toutes. Ça a été un enjeu abordé de front par Joe Biden hier. L'enjeu démocratique également, qui est un peu lié à tout ça, parce que forcément, beaucoup d'Américains pensent que la démocratie est en jeu en ce cycle électoral, qu'elle l'était au cycle électoral de mi-mandat en 2022. Mais le problème, c'est que Joe Biden met cet enjeu-là au cœur de sa campagne, comme en 2020. Mais le problème, c'est que même si beaucoup d'Américains pensent que la démocratie est en jeu, peu la placent vraiment au sommet de leur priorité. Mm-hmm. Alors, c'est certes quelque chose qui devrait faire l'unanimité, mais qui, étrangement, des déclarations comme celle-là, de protéger la démocratie, d'être contre les violences politiques en faisant référence au 6 janvier, ben, t'avais tout un côté de la Chambre des représentants, là, toute la partie républicaine, les représentants puis les sénateurs républicains, qui applaudissaient pas sur des mesures, sur des déclarations aussi simples et aussi consensuelles dans un pays de droit et démocratique. Ça devrait être applaudi par tout le monde. On voyait toute une moitié qui applaudissait pas. Je m'amusais aussi à regarder, quand la caméra montrait l'assistance, quel républicain osait applaudir sur certaines mesures. Joe Manchin et Mitt Romney étaient assis à côté et les deux applaudissaient à peu près sur les mêmes choses. Et ça permet de constater à quel point un démocrate comme Joe Manchin est plus proche d'un républicain comme Mitt Romney que les deux de dans leur parti, que des éléments plus radicaux, là. Des pro-Trump de Mitt Romney sont assez éloignés que des socialistes, puis Joe Manchin, un parti démocrate, sont assez éloignés ça aussi. Mais pour conclure sur ce discours sur l'état de l'Union, la question qui démontre une grande faiblesse chez Joe Biden, c'est l'économie. Objectivement parlant, l'économie se porte mieux maintenant qu'elle se portait il y a 4 ans quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Mm-hmm. Les chiffres le montrent, là. Sur le taux de chômage, la reprise économique après la pandémie, c'est normal. Joe Biden... La tâche de la reprise économique après la pandémie incombait à Joe Biden. Mmh. Donc, le taux de chômage, le nombre d'emplois créés, etc., tout ça est bien reluisant. Mais le problème, c'est le taux d'inflation qui, même s'il est à la baisse, le coût de la vie est excessivement cher. Et comme citoyen, si moi, on a beau montrer toutes sortes de statistiques, toutes sortes de chiffres, on me dit « oui, mais l'économie se porte mieux ». Oui, mais si moi, je paie plus cher mon épicerie, je paie plus cher le gallon à la pompe en termes d'essence, ben c'est difficile à croire. Puis c'est un comportement électoral normal de placer la faute sur celui qui est à la Maison-Blanche, même si tout n'est pas de sa faute, et même si on peut sortir toutes les statistiques possibles, c'est pas la chose à faire pour convaincre sur le plan de l'économie, puis c'est tellement plus facile pour les... du côté de l'opposition républicaine, de mettre l'inflation sur le dos de Joe Biden, alors qu'il n'en est pas 100% responsable. Au contraire, avec la reprise économique, il y a beaucoup fait, de façon bipartisane également. Ça demeure son gros désavantage et ce sur quoi il doit travailler et ce sur quoi il va être attaqué. Il est déjà attaqué là-dessus, l'économie, le coût de la vie, l'inflation. Et il ne peut pas faire grand-chose jusqu'à maintenant parce que oui, l'économie se porte mieux, mais c'est dans la perception des choses, et c'est là que ça fait mal.
Bien, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est ça qui est drôle de voir une politique de deux partis, c'est que l'autre parti peut jamais être bon, il faut toujours qu'il soit le démon. C'est fait ça. Que là, t'as Trump qui dit que les républicains, pas les républicains, les démocrates disent que c'est à cause de la pandémie qu'il y a eu l'économie comme ça, mais ils veulent pas accepter que c'est Biden qui a fait que l'économie va un peu mieux. Même si tu leur dis, ouais, mais regarde, ils font mieux que le reste du monde.
Ils diront
ouais,
pas.
Mais c'est pas Biden. Si c'est la pandémie qui a fait ça, ben ça veut dire que c'est le reste du monde qui a fait que c'est revenu normal. Ou ils disent pire, ben c'est parce qu'ils savent que Trump revient.
On est dans un contexte économique généralisé dans le monde où l'inflation touche à peu près tous les pays, là. Et c'est le jeu est beau pour les oppositions, puis on le voit chez nous aussi avec Pierre Poilievre, qui sort la carte de la juste inflation ad nauseam. C'est une carte qui est payante parce que ça touche le portefeuille des gens.
Voilà.
Et ça permet de faire sortir les gens. C'est tellement plus mobilisant. Ça permet de mobiliser tellement plus facilement des questions comme ça quand ça touche notre portefeuille, notre dollar, parce que oui, d'accord, la reprise économique s'est bien passée, etc., mais on a beau me sortir tous les chiffres, si moi je suis plus pauvre qu'il y a 4 ans parce que j'ai moins de pouvoir d'achat, ben je ne te croirais pas, même si tu m'amènes tous les chiffres. Et c'est dans cette optique-là que c'est beaucoup plus payant, et c'est un message qui est simple, qui est efficace à sortir. Poilievre l'a compris, les républicains l'ont compris aux États-Unis, et c'est quelque chose qui va nuire aux dirigeants qui sont en poste actuellement à la prochaine élection. Puis dans le cas de M. Biden, ça s'en vient, c'est déjà le cas.
D'autant plus quand tu connais pas le reste du monde, qu'est-ce qui se passe. Puis au Canada, on est un peu moins pire qu'aux États-Unis de ce côté-là, mais aux États-Unis, le reste du monde n'est pas tellement important. Ça fait qu'il n'est pas sûr qu'ils sont aussi au courant que ça, qu'il y a une, que c'est partout pareil. T'sais.
Ben exactement, non, tu as tout à fait raison. Alors, c'est la chose qui risque de nuire le plus gravement à Joe Biden, et c'est la, et il doit aborder l'économie de front pour essayer de présenter son parcours économique là, au cours des 4 dernières années, les mesures qu'il a prises, puis présenter la tâche colossale qui était la reprise économique après la pandémie comme une réussite, mais c'est pas gagné d'avance.
Hey Vincent, super mardi, c'était cette semaine.
Oui, c'est ça.
Là, j'étais plus sûr, c'était pas la semaine passée, non, c'est cette semaine.
Il n'y a pas eu de surprise.
Pas eu de surprise, mais comment tu vois les résultats? Parce que, veux pas, Trump n'a pas eu le même pourcentage que Biden a eu de son côté.
Oui, non, Je pense que c'est normal parce que là, on a un président sortant qui n'a à peu près pas d'opposition, là, qui a deux candidats très mineurs qui l'affrontent dans le cas de Joe Biden. Et la tradition veut qu'on ne s'oppose pas vraiment à un président sortant. Et comme il n'y a à peu près rien en jeu au Parti démocrate, ben évidemment que le taux de participation est moindre aussi chez les démocrates. Alors qu'il y a une vraie course chez les républicains, qui n'en est plus une à l'heure où on se parle, mais qui en était une mardi, Nikki Haley, son but, c'était de se rendre au moins jusqu'au super mardi. Dans ces circonstances-là, c'est une mini-victoire pour elle de s'être rendue aussi loin d'être la seule à avoir réussi à affronter Donald Trump jusqu'à mardi dernier. Elle s'est retirée sans surprise parce que après autant de défaites cuisantes, ça aurait été impossible pour elle de continuer à justifier ce qui aurait été perçu comme un entêtement à continuer et à persévérer. Là. Les résultats sont clairs. La défaite de la Caroline du Sud la semaine dernière a fait mal parce que c'était son état. Au moins, ça lui a permis de se rendre au super mardi et de gagner un état, le Vermont, sur les 15 États. Et quelques jours plus tôt, elle avait gagné Washington, D.C., qui avait tenu une primaire. Ça n'a à peu près aucun poids en termes de délégués, mais c'était le premier État que Nikki Haley gagnait. État, entre guillemets, là, parce que c'est le district de Columbia qui n'est pas un État, mais qui vote comme un État. C'était une première victoire, donc c'est symbolique pour elle, mais en même temps, c'était une épée de Damoclès parce que ça donnait raison à Donald Trump qui, depuis le début, martèle que Nikki Haley est la candidate des élites de Washington.
C'est là qu'elle a gagné.
Oui, puis tout ce que Donald Trump prétend, tout le contraire de ce que Donald Trump prétend incarner. Et c'est là qu'elle gagne sa première victoire. Ensuite, le Vermont, qui est un des États les plus progressistes aux États-Unis. Pour le reste, Donald Trump a même gagné la Californie mardi, le Texas, la Caroline du Nord, la Virginie, des États extrêmement importants qui ont un poids. Alors, il lui manque, si mon calcul est bon, 153 délégués là, pour gagner la nomination. Ça va se faire assez facilement maintenant qu'il n'y a même plus d'adversaires. Alors, c'est un couronnement là, que certains prévoient depuis le début, mais moi, je veux toujours me garder le recul nécessaire pour dire, ben, si on est en démocratie, il n'y a rien qui est écrit d'avance, mais Donald Trump a réussi à réaffirmer et à s'imposer comme la tête dominante du Parti républicain, sans surprise, évidemment, 14 des 15 États, puis qu'il y en avait des très importants comme ceux que je viens de vous nommer. Bien sûr que les prochaines courses parce que les États votent quand même, il n'y a rien de terminé. Là, il faut, parce que, oui, on regarde la course présidentielle, mais il y a des primaires pour les sièges au Congrès, il y a des primaires pour les gouverneurs, pour les États qui ont des courses pour les postes de gouverneur. Donc, quand les gens vont voter, ils ne vont pas juste cocher s'ils choisissent Donald Trump ou Nikki Haley. Là, il y a un grand bulletin de vote. Là, c'est des primaires pour à peu près toutes les élections qu'il va y avoir en novembre.
Ben, ils appellent ça des cahiers de vote, eux autres, parce que c'est un cahier.
Ben oui, il y en a tellement.
C'est immense dans certains États, dans certains comtés aussi, parce qu'il y a des courses très locales. Donc, évidemment qu'il va continuer à y avoir tout ça, mais on va regarder avec beaucoup moins d'attention ce qui va se passer. Là. Les résultats sont assez clairs que Donald Trump et Joe Biden vont s'affronter à moins d'un revirement dramatique de situation. Le discours de l'Union a été une occasion pour Joe Biden de présenter un discours parfois très partisan contre les républicains, mais aussi de prouver que ce qu'on a dit, ce qu'on a allégué récemment sur son âge est pas tout à fait vrai, qu'il a encore une énergie, qu'il a encore les idées jeunes, qu'il a encore des idées progressistes qui lui permettent de se projeter pour un autre mandat puis d'amener le pays plus loin. Il s'est clairement positionné contre Donald Trump là-dessus, puis il fait aucun doute que la course sera une répétition de 2020, mais dans un contexte complètement différent. Alors, le Super Mardi qui a été une autre preuve de force de la part de Donald Trump, qui même s'il n'a pas eu les résultats écrasants de Donald Trump, parce que Nikki Haley réussit à aller chercher une base anti-Trump, là, c'est ça la différence.
C'est ça.
Mais regardez la Californie, là, 78% Donald Trump en Californie, qui est censé être un État progressiste. Là, donc, selon la logique des choses, ça voudrait dire qu'il y a des républicains plutôt progressistes dans les centres urbains, etc. Ben non, effectivement, Donald Trump qui a à peu près tout raflé aussi en Californie, puis dans des États plus progressistes, sauf le Vermont et Washington, qui sont allés à Mme Haley. Là. Les seules défaites de Donald Trump jusqu'à maintenant, qui ne sont pas très grosses. Là.
Et rapidement, Vincent, on a un petit 2 minutes pour nous parler. Bon, tu parlais de Donald Trump, la Cour suprême qui a renversé la décision du Colorado de disqualifier Donald Trump. Donc, il est éligible pour les élections de novembre prochain.
Oui, et ça va aussi avoir une incidence pour tous les autres États qui auraient voulu bannir Donald Trump de leur bulletin de vote. Il y avait des mesures semblables au Maine et en Illinois, donc ça va sans doute être renversé assez facilement après cette décision unanime de la Cour suprême des États-Unis. Les 9 juges s'entendent pour dire que l'État du Colorado, qui avait en décembre invoqué la 3e section du 14e amendement, pour dire que toute personne qui a participé à une insurrection, là, en parlant du 6 janvier, est inéligible à une fonction fédérale. Donc, la Cour suprême du Colorado, en fait, avait décidé de retirer le nom de Donald Trump des bulletins de vote. C'est allé évidemment en Cour suprême et cette décision unanime dit, mais en fait, les juges s'entendent pas sur grand-chose, mais ils s'entendent sur le cœur de l'idée pour dire que les États peuvent pas décider de bannir un candidat pour une élection fédérale. Donc, le Colorado pourrait bannir quelqu'un en vertu du 14e amendement pour une course dans son État. Mais pour ce qui est d'une élection fédérale, il y a juste le Congrès qui peut interdire ou disqualifier quelqu'un. Okay. Donc, c'est à peu près là-dessus là, que s'entendent tous les juges. Pour le reste, bien, évidemment que les libéraux sont d'accord sur autre chose, contrairement à la majorité conservatrice. Mais ça va avoir... C'est un précédent juridique intéressant. Et le contraire aurait été un précédent juridique inquiétant si on peut commencer à bannir des candidats. Donc, c'est pas étonnant. Puis, on s'attendait à un résultat comme celui-là. Et ça arrive juste à temps parce que les primaires au Colorado ont lieu mardi. Le nom de Donald Trump avait été ajouté en attendant la décision de la Cour. Donc, on avait suspendu l'interdiction le temps que la Cour suprême tranche. Puis, il y a déjà, on estime, 500 000 bulletins qui ont été enregistrés, qui ont été déposés par anticipation. Donc, il n'y aura pas d'incidence sur la course au Colorado. Okay. Puis, il risque d'y avoir un renversement aussi des décisions prises au Maine par le secrétaire d'État et par un juge de l'Illinois aussi.
Vincent Gosselin, on a détaillé cette semaine quand même assez importante de belle façon. Un grand merci à toi.
Ben, c'est toujours un plaisir. Passez un beau week-end.
Toi aussi, à la prochaine.
Salut.
Vincent Gosselin en direct du Caire en Égypte, donc pour cette grosse semaine Super Mardi, discours sur l'État de l'Union.
C'est une grosse semaine.
C'est une grosse semaine, oui. Puis encourageant également de ce qu'il a parlé, entre autres, du discours de l'État de l'Union, ça pourrait encourager justement les gens à dire OK, ben Biden, solide. Bien préparé, il pourrait gagner des points grâce à ça.
Pas oublier qu'il a l'air des fois un peu perdu quand il parle. Il bégait.
Il bégait, c'est ça.
De base.
Fait que ça donne l'impression qu'il cherche ses mots, ben qu'il bégait.
Il bégait. Voilà.